Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, messieurs les académiciens, madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, monsieur l'inspecteur général, monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, madame la déléguée académique aux arts et à la culture, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers élèves, au nom de l'ensemble des équipes de l'Académie de Paris, je vous souhaite la bienvenue en Sorbonne, dans ce lieu, le grand amphithéâtre qui symbolise à lui seul l'idéal de progrès de notre République. Le progrès intellectuel des penseurs que vous avez autour de vous, le progrès des ingénieurs qui ont construit cette salle avec les techniques les plus modernes à la fin du XIXe siècle, le génie des ouvriers qui interprètent des visions grâce à la virtuosité de leurs gestes, le progrès des arts, comme nous le rappelle chaque regard porté sur la merveilleuse toile de Puvis de Chavannes qui est derrière moi. Ce lieu hautement symbolique de nos valeurs et de nos aspirations est donc particulièrement approprié pour notre troisième conférence organisée avec l'Académie des sciences morales et politiques. Le thème d'aujourd'hui porte sur Napoléon. En ce mois de mai 2021, nous commémorons les 200 ans de la mort de l'empereur, exilé loin de chez lui, loin de sa gloire, sur ce morceau de roche livré au hasard des tempêtes de l'Atlantique Sud, tout à la solitude de celui qui médite sur ses erreurs et sur ses succès éclatants, Sainte-Hélène. Les historiens de bonne foi, guidés par l'éthique de leur discipline, la vérité, qui résiste toujours à la complexité des hommes et à l'inventivité magnifique de la vie, cheminent depuis deux siècles pour tracer le portrait comme en clair-obscur d'un être qui a vécu l'une des périodes les plus exaltantes et en même temps les plus mouvementées de notre histoire, la Révolution française. Dans ce temple du savoir qu'est l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, chassons donc les préjugés, chassons les opinions et faisons confiance à la science et à l'audace de nos historiens. La diversité de leurs approches souligne le progressisme de Bonaparte et l'autoritarisme de Napoléon. Napoléon Bonaparte est d'un bloc et il nous revient de le restituer dans le champ de contraintes qui était le sien. Si fidèlement nous cherchons à comprendre ce caractère, cette volonté, cette obstination à être qui a su embrasser dans un seul et même élan un pays meurtri, divisé, à feu et à sang, mais au fond aspirant à la même chose, la grandeur de la France. Cette France qui, en ce crépuscule du XVIIIe siècle, ouvrit un chemin nouveau pour l'humanité, celui des droits imprescriptibles attachés à tout être humain. Nous l'apprenons aux élèves, à vous donc. L'école ne juge pas, elle ne loue pas, elle ne condamne pas. L'école observe et elle cherche à transmettre un regard éclairé sur notre histoire. Elle n'encense pas, elle enseigne, elle transmet. C'est pourquoi les programmes d'histoire accordent une place importante à Napoléon et c'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir et pour apprendre. L'un des devoirs les plus sacrés des vivants est de transmettre les legs du passé, non parce que les morts exerceraient une tyrannie sur les vivants, mais bien parce que les vivants doivent se prémunir contre les illusions de l'avenir. Cette fameuse figure du revenant dont nous parle Valéry. L'histoire de la France et de ses grandes figures anime le cœur de nos écoliers. Parce que nous ne mettons rien de cette histoire, elle est notre âme, cette âme qui n'a pas vacillé dans les périls, cette âme qui ne s'est jamais éteinte, même quand l'esprit de renoncement l'avait emportée. En ce jour, je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir M. Jean Tullard en Sorbonne. Reçu premier à l'agrégation d'histoire en 1958, vous avez été successivement pensionnaire de la Fondation Thiers, chercheur au CNRS, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, professeur à l'Université de Paris 4, puis à Sciences Po Paris. Vous êtes aujourd'hui considéré à l'unanimité comme le plus grand spécialiste de Napoléon, de la période du Consulat et de l'Empire, après à lui avoir consacré une multitude d'ouvrages fondateurs, et vous êtes président d'honneur de l'Institut qui porte son nom. Votre présence pour nous, je le redis, est un honneur et je me réjouis que vous transmettiez aujourd'hui votre savoir à nos lycéens issus des trois académies d'Île-de-France. Votre exposé portera sur la dichotomie qui entoure Bonaparte entre légende noire et légende dorée. Victor Hugo le dépeignait d'ailleurs ainsi dans Les Orientales, toujours Napoléon éblouissant et sombre sur le seuil du siècle est debout. Nous attendons donc avec impatience le tableau que vous allez nous faire de ce sfumato historique. Et je suis sûr que ces murs résonneront particulièrement à cet exposé portant sur un homme qui a été, par bien des aspects, l'un des architectes de notre système éducatif actuel. C'est sous son égide que naît une volonté d'unifier le système scolaire français, vous le savez. Ainsi, la structure des lycées, les premiers inspecteurs d'académie, les premiers inspecteurs généraux, les premiers recteurs sont nés en 1802, en 1808, sous Napoléon. L'organisation de l'université moderne, le grand maître Fontane est d'une certaine façon à la fois le premier ministre de l'éducation et le premier recteur de Paris, sont nés sous Napoléon. L'organisation de l'université moderne, la consolidation d'un véritable corps professoral font également partie de son héritage. Un héritage qui mérite donc d'être étudié et compris dans sa complexité, tant il a d'écho sur notre quotidien encore aujourd'hui. Napoléon, le président de la République l'a dit le 5 mai dernier, fait partie de nous. Là réside le grand mystère, la grande fascination. Il est prodigieux de constater que la volonté d'un homme peut inscrire dans l'histoire et lui donner corps 200 ans après sa disparition. C'était un homme qui portait inlassablement une certaine idée de la modernité, même s'il n'est plus exactement la nôtre aujourd'hui. Un homme qui s'est saisi des valeurs révolutionnaires et en a brandi l'étendard devant chaque frontière, devant l'Europe des obscurantismes, grondante et coalisée. S'il est resté dans les mémoires, c'est parce qu'il était de ceux qui s'emparent d'un combat que tout le monde croit perdu d'avance et le font vivre. Celui qui, vaincu, remonte sur son cheval, faisant confiance à la fidélité et au dévouement de ses hommes et à son génie. Ce que Napoléon a fait vivre, c'est l'espoir des Françaises et des Français, envers et contre tout, de faire nation, une nation qui invente un règne nouveau pour les hommes sur cette terre. Chers élèves, apprenez donc Napoléon Bonaparte pour vous méfier de l'autoritarisme, pour chérir la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour ne renoncer jamais à faire se rencontrer vos aspirations profondes et votre vie. Sur ces vœux, je vous laisse à la leçon de M. Jean Tullard et je nous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup.
Monsieur le recteur, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le grand rabbin, madame la surintendante, messieurs les inspecteurs, chers collègues, chers élèves, merci d'être venus entendre encore une fois parler de Napoléon. Il est en effet, dans notre histoire, le personnage qui fascine le plus. Il est paru plus de livres sur lui qu'il ne s'est écoulé de jours depuis sa mort. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est une statistique donnée par la Bibliothèque nationale. Il a été tourné plus de 1000 films sur Napoléon. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est un chiffre qui a été recensé par Hervé Dumont, conservateur de la Cinémathèque de Lausanne, et force est de constater que Napoléon a inspiré plus de films que Jésus lui-même, que Jeanne d'Arc ou que Lincoln. Au Louvre, le tableau le plus regardé après la Joconde, c'est le sacre de Napoléon, plus exactement le couronnement de Joséphine. Et il n'est pas un peintre moderne qui n'ait été tenté par la personnalité de Napoléon, ça va de Max Ernst à Salvador Dali, et même encore aujourd'hui, un artiste ou prétendu tel a disposé au-dessus du tombeau de Napoléon d'une sorte de vague sculpture présentant un cheval qui aurait été le cheval de Napoléon. Qui ignore parmi vous que la symphonie héroïque s'est appelée d'abord la symphonie Bonaparte. Vous avez entendu aussi bien du Schubert, du Schumann que du Schoenberg consacré à Napoléon. Napoléon, c'est aussi un personnage d'opéra. On l'a présenté il n'y a pas longtemps sur la scène de l'opéra « Guerre et paix » du grand musicien russe Prokofiev. Et puis, il y a même l'opérette avec Serge Limard et je n'oublie pas aussi les groupes musicaux qui s'emparent quelquefois de Napoléon. Napoléon, c'est aussi un nombre incalculable de romans et même le roman policier n'a pas négligé Napoléon. Vous le savez, Conan Doyle, qui est l'auteur de Sherlock Holmes, a aussi consacré un cycle au brigadier Gérard, un soldat de la Grande Armée. Et en définitive, Conan Doyle préférait de beaucoup ses livres sur le brigadier Gérard à ceux de Sherlock Holmes. Et pour mieux se consacrer au brigadier Gérard, il a fini par tuer Sherlock Holmes dans une de ses nouvelles, Le Dernier Problème. Et à partir de ce moment-là, il pouvait raconter les exploits de la Grande Armée. Malheureusement, là, le public n'a pas suivi et il a été forcé de ressusciter Sherlock Holmes dans la maison vide. Et puis, il y a aussi la bande dessinée. Traversez le boulevard Saint-Michel, allez dans la grande librairie en face et vous découvrirez au moins 5 bandes dessiné, consacré à la vie de Napoléon, dont l'une se réclame de moi, où je dis « Avec Napoléon, on ne s'ennuie jamais ». J'espère que ce sera le cas ce soir. Alors, pourquoi cette fascination à l'égard de Napoléon et pourquoi aussi cette polémique qui a secoué ces derniers mois l'opinion contre Napoléon? Pourquoi cette fascination pour Napoléon? Au départ, Napoléon doit tout à la Révolution française. Sans la Révolution française, il n'y aurait pas eu Napoléon. En 1789, le 14 juillet, commence une révolution dont on se demande comment elle se terminera, comme toutes les révolutions. Mais là, on est assuré d'une chose. On a un précédent qui est la Révolution anglaise du XVIIe siècle, qui a vu les Anglais couper la tête de leur roi, puis il y a eu la dictature de Cromwell, et enfin, le général Monk a mis fin à cette Révolution anglaise en restaurant Charles II. Eh bien, on pense que ce sera le même schéma pour la fin de la Révolution française, qu'un général, victorieux comme il se doit, finira cette révolution. Mais quel général ! Le premier à y avoir songé, pour lui, c'est Lafayette, le héros de l'indépendance américaine, Lafayette qui commande à un moment donné la garde nationale et qui pense que c'est lui qui va terminer la révolution. En août 1792, il tente de retourner son armée contre Paris, mais son armée ne suit pas et il doit s'enfuir. Ce ne sera pas Lafayette. Alors, c'est Dumouriez, le vainqueur de Valmy, qui pense que c'est à lui que doit revenir le soin de terminer cette révolution. En 1793, il tente de retourner son armée contre le comité de salut public. L'armée ne suit pas, il échoue, il doit s'enfuir lui aussi. Alors, on pense que ce sera le général Pichegru. Le général Pichegru a réussi avec ses cavaliers à s'emparer de la flotte hollandaise. Il est vrai qu'elle était prise dans les glaces. Pichegru, à son tour, va tenter sa chance, mais il sera devancé par Barras et à son tour, il échoue. Alors, Hoche meurt très jeune, mystérieusement, dit-on, empoisonné. Alors, Marceau est tué au combat alors que des contacts avaient été pris avec lui. Ah, il y a un jeune général qui vient de se faire remarquer, c'est le général Bonaparte. Né en Corse en 1769, officier de l'armée de Louis XVI, il s'est surtout occupé des affaires corses. A eu parti lié avec Paoli, puis s'est brouillé avec Paoli, finalement a choisi le continent pour sa carrière, s'est illustré à Toulon, au siège de Toulon, puis ensuite a écrasé une insurrection royaliste le 13 Vendémiaire et en récompense a reçu le commandement de l'armée d'Italie. Ce n'est pas une grande armée, c'est une armée de diversion. Le reste se joue sur le Rhin et le Danube. Néanmoins, il va remporter des victoires, Lodi, Arcole, puis Rivoli. Ce ne sont pas de très grandes victoires, mais le général Bonaparte est un homme qui a compris qu'il ne faut pas seulement vaincre, il faut aussi convaincre. Et donc, il a su se créer un personnage, maigre, les cheveux pendants, le regard aigu, et plein d'une énergie extraordinaire, qui est immortalisée par l'image, immortalisée par Gros, immortalisée par David. Et puis, il a compris aussi qu'il y a un pouvoir nouveau, la presse. La presse qui devient un moyen de forger des légendes, de forger des réputations. Et il crée des journaux, dont un journal, le journal de Bonaparte et des hommes vertueux. Tout un programme. Dans ce journal, on lit, par exemple, cette phrase que Bonaparte lui-même a dictée, bien entendu, aux journalistes. Bonaparte, vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Ça sonne bien. Les gens qui lisent ça se disent, là, voilà un général. Et donc, on se dit, ben, ce sera Bonaparte qui va terminer la Révolution. L'ennui, c'est que lorsqu'il revient de cette éblouissante, finalement, campagne d'Italie, après avoir signé la paix de Campo Formio, la situation n'est pas propice à un coup d'État à la Monque. En effet, la situation financière s'est redressée, le pouvoir des directeurs s'est stabilisé, bref, ce serait risqué un coup d'État. Et son mentor, qui est le ministre des Relations extérieures, Talleyrand, lui dit « Attendez un peu, mais surtout ne vous faites pas oublier, et donc allez faire un tour en Égypte. L'Égypte, ça sera facile à conquérir. La domination des Mamelouks est en train de s'écrouler. Donc, allez en Égypte. Il y aura les pyramides, il y aura des palmiers, il y aura des crocodiles. Ça va être extraordinaire. Et quand vous rentrerez, alors, la situation sera mûre et vous pourrez être enfin le général Monk. » Bonaparte, donc, part en 1798 pour l'Égypte. Il arrive en Égypte. Mais voilà que, alors qu'il vient de remporter la victoire des pyramides, sa flotte, toute sa flotte, est coulée par l'amiral Nelson, et donc il ne peut plus rentrer en France, il n'y a plus de navire, il est prisonnier de sa conquête. Alors, ce ne sera pas Bonaparte. Qui va terminer cette révolution? On regarde Masséna, il manque de carrure politique, Augereau, c'est une brute. Ah! Il y a un jeune général, brillant, séduisant, qui s'est illustré à Rivoli, c'est le général Joubert. Fouché, ministre de la police, le connaît et donc dit il serait très bien, c'est lui qui va faire le coup d'État. Talleyrand s'inquiète et pour être bien sûr de Joubert, il lui fait épouser une demoiselle Zéphirine de Montholon qui a été adoptée par le comte de Sémonville, un personnage important parmi les Thermidoriens. Donc, ce sera Joubert, avant qu'il ne parte, car il considère qu'il n'a pas encore l'étoffe de Lafayette, du Maurier, de Pichegru, de Bonaparte. Donc, il faut qu'il remporte une grande victoire. Les Russes sont en Italie. Il va aller en Italie battre les Russes et il reviendra auréolé de cette victoire pour faire le coup d'État. Seulement, Joubert, ça arrive, est tombé amoureux de Zéphirine. Il est tombé amoureux de Zéphirine et donc il n'a pas très envie d'aller combattre les Russes en Italie. Donc il perd du temps et les Russes vont pouvoir concentrer toutes leurs forces à Novi. Et c'est là que Joubert, partant trop en retard, va les affronter. La bataille de Novi, qui a lieu un 15 août 1769, pardonnez-moi, 1799, cette bataille de Novi voit Joubert prendre la tête de ses troupes. Il charge à la tête de ses troupes. D'abord, avant d'engager la bataille, Il sort de son gousset le médaillon représentant Zéphirine, il l'embrasse, puis il sort son sabre et il dit « En avant !» Et à ce moment-là, une balle le frappe entre les deux yeux. Joubert est tué, il n'y a plus de généraux. Comment va se terminer la Révolution ? Mais il y a un miracle. Bonaparte a réussi à trouver une frégate, la Muiron, et voilà qu'il débarque le 9 octobre 1799, auréolé du prestige du vainqueur des pyramides, auréolé de ses victoires en Italie, servi par ses frères qui jouent un rôle dans les assemblées politiques. Bref, c'est Bonaparte qui sera l'homme du coup d'État, associé à l'abbé Sieyès, un personnage qui, dans l'ombre, n'a pas cessé de jouer un rôle. Ce sera donc le coup d'État des 18 et 19 Brumaire qui met fin, traditionnellement, à la Révolution française. Bonaparte devient, au soir de cette victoire, de ce coup d'État, premier consul. Et il va immédiatement se mettre au travail, il va mettre fin à la Révolution, il va reconstruire une France sur les ruines de la Révolution. C'est la grande époque du consulat, une époque très admirée qui va servir sa légende. C'est l'époque où il fonde le Conseil d'État, où il fonde les préfets, où il fonde le Code civil, où il fonde la Légion d'honneur, où il crée, monsieur le recteur l'a rappelé, les lycées. Et même, c'est lui qui crée le baccalauréat qui, à l'époque, ne suscite qu'une poignée de candidats, qui, d'ailleurs très mécontents des conditions de cet examen, ont surnommé le baccalauréat la Bonapartine, en dérision à l'égard de ce diplôme. Donc, vous le voyez, Bonaparte met fin à la Révolution. Mais, ensuite, vous vous rappelez, le général Monck avait restauré Charles II sur le trône. Bonaparte ne va pas restaurer Louis XVIII, à la grande déception des royalistes. Bonaparte pourrait se contenter de maintenir la République, pour la grande joie des républicains. Mais non, il va créer une monarchie à son profit, un empire. Il devient empereur des Français, brisant ainsi, notez-le bien, les espoirs des royalistes et les espoirs des républicains, nous allons les retrouver dans la légende noire. Donc, Bonaparte, devenu Napoléon Ier, est sacré à Notre-Dame en présence du pape, empereur des Français. Et à partir de ce moment-là, l'image de Bonaparte, du jeune général républicain, victorieux en Italie, victorieux en Égypte, ce jeune homme avec les cheveux au vent, le regard ardent, le visage émacié, laisse place à un autre personnage. Bonaparte s'efface devant Napoléon. Et c'est toujours l'image. C'est comme ça qu'on forge une légende, c'est par l'image. Et donc, Napoléon crée un autre personnage, une autre silhouette. Une silhouette avec un bicorne qui est horizontal au lieu d'être vertical, avec une redingote grise, comme il se doit, avec la main dans le gilet. Et c'est un coup de maître. Désormais, quiconque mettra sa main dans le gilet, on dira Napoléon. Quiconque aura ce chapeau, ce bicorne, dira Napoléon. Et n'importe quel acteur, y compris Christian Clavier, pourra interpréter au cinéma le rôle de Napoléon. Donc, voilà Napoléon qui succède désormais à Bonaparte. Je vous ai évoqué la grande œuvre du consulat. Voici maintenant l'heure de la gloire militaire. Car à la légende des grands masses de granit, des grands massifs que Napoléon a établis dans nos institutions, voici la gloire militaire. Campagne de 1805, avec Austerlitz, le 2 décembre 1805, où les Russes et les Autrichiens sont battus. Voici 1806, les Prussiens balayés à Iéna, puis les Russes vaincus à Eylau et à Friedland, 1809, victoire de Wagram, et finalement, Napoléon apparaît comme un vainqueur perpétuel. Et la légende s'amplifie. D'autant que Napoléon comprend, je vous l'ai dit, qu'il ne suffit pas de vaincre, il faut convaincre. Il faut faire connaître ses victoires. Et pour cela, Napoléon invente le communiqué de guerre. Après la bataille, après la victoire, Bonaparte, qui est devenu Napoléon, convoque son état-major et il dicte le récit de la bataille. Il le dicte, ce récit est pris en note, ce récit insiste sur les qualités de stratège de Napoléon, elles sont évidentes. Il insiste sur les exploits des soldats, les exploits individuels ou les exploits des régiments. Et c'est comme ça que Napoléon s'attache à ses soldats. C'est pour ça que la Grande Armée et Napoléon sont soudés, parce que dans ces bulletins de la Grande Armée, eh bien, on parle d'eux. Et puis surtout, le bulletin de la Grande Armée, il va être diffusé dans toute la France. Et aucune catégorie n'y échappera. D'abord, dans les lycées. Ah, imaginez le mauvais élève qui doit passer au tableau pour parler du théorème de Pythagore. Il n'a pas la moindre idée du théorème de Pythagore. Donc, il lui faut gagner du temps avant que, il n'y a pas de sonnerie à l'époque, le roulement de tambour annonce la récréation. Alors, il gagne du temps. Pythagore a inventé un théorème qui est le théorème de Pythagore. Ce théorème de Pythagore, bon, il est à court, lorsqu'à ce moment-là, la porte de la classe s'ouvre, paraît le proviseur avec le bulletin de la Grande Armée, et c'est le cancre qui doit lire le bulletin de la Grande Armée et qui recueille les applaudissements des autres élèves. Comment ce cancre ne serait-il pas attaché à Napoléon ? Nous sommes à la Comédie-Française que, par le décret de Moscou, Napoléon va réorganiser plus tard, en 1812. Sur la scène de la Comédie-Française, il y a Talma. Talma qui joue Polyeucte. Allons, mon cher Néarque, allons aux yeux des hommes. Et à ce moment-là, il voit dans la coulisse le régisseur qui tend le bulletin de la Grande Armée. Alors il s'interrompt et il lit, plus exactement, il déclame le bulletin de la Grande Armée, ovationné par le public. Puis il reprend, allons, mon cher Néarque, allons aux yeux des hommes, briser les idoles et montrer qui nous sommes. Nouveau tonnerre d'applaudissements. Comment Talma ne serait-il pas un admirateur de Napoléon ? Et puis, ça gagne jusqu'aux églises. Le dimanche, le curé qui doit parler, faire un sermon sur précisément un des évangiles, qui ennuie en général ses ouailles, et lui-même n'est pas très brillant là-dessus, chance, ce dimanche-là, il va lire au prône un bulletin de la Grande Armée, et ses ouailles vont rester éveillées et vont crier, oubliant Dieu, « Vive l'empereur !» dans l'Église. Bref, c'est toute une opinion qui est gagnée par Napoléon. C'est comme ça qu'on crée une légende. Mais cette légende napoléonienne, elle n'est pas seulement française, car les conquêtes de Napoléon font que désormais Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Trèves, Genève, Turin, Gênes, Florence, Rome et même à partir de 1812 Barcelone sont désormais des villes françaises comme Limoges, Lille ou Toulouse. Et donc l'Europe est en train de se dessiner, car Napoléon est aussi roi d'Italie, avec Milan et Venise, il est médiateur de la Confédération helvétique, donc il dirige toute la Suisse, il est protecteur de la Confédération du Rhin, qui réunit toute l'Allemagne, et à laquelle s'ajoute la Pologne, son frère Joseph va devenir roi d'Espagne, son beau-frère Murat, roi de Naples, Bernadotte, un de ses maréchaux, devient prince héritier de Suède. Le roi du Danemark est un fanatique de Napoléon et il a sous son contrôle la Norvège. Et il n'est pas jusqu'à l'empereur d'Autriche, qui règne également sur la Hongrie, sur la Tchécoslovaquie, sur la Roumanie, il n'est pas jusqu'à l'empereur d'Autriche qui donne en mariage à Napoléon sa fille Marie-Louise. Bref, l'Europe est faite sous Napoléon. Et elle en garde encore aujourd'hui le souvenir. Une conférence faite à Bruxelles, à Milan ou, je ne dirais pas à Barcelone, ces conférences de ce type attirent énormément du monde. Et puis, ce n'est pas seulement l'Europe. La légende napoléonienne va devenir universelle, car elle va s'étendre aux États-Unis lorsque Napoléon vend la Louisiane à un bon prix aux États-Unis. Elle va s'étendre en Australie, où l'expédition Baudin reconnaît les côtes australiennes, et ces côtes australiennes vont porter des noms de la famille de Napoléon. Et c'est même jusqu'à Java, au diable, Java, qui, colonie hollandaise, devenue, après l'annexion de la Hollande, colonie française, va recevoir un gouverneur français, le général d'Indels, envoyé par Napoléon, et ce général va établir, comme ça se fait un peu partout lors des conquêtes napoléoniennes, un réseau routier à Java. Aujourd'hui, les voitures à Java roulent sur le réseau qui date de Napoléon à Java. Mais pour qu'il y ait légende, il ne faut pas être constamment victorieux. Imaginez que le Paris Saint-Germain remporte tous ses matchs de football, vous ne suivriez plus le football. Que tel coureur cycliste remporte toutes les courses cyclistes, vous seriez désintéressé très vite. Pour qu'il y ait légende, il faut qu'il y ait le malheur. Et le malheur va s'ajouter à la légende napoléonienne. Il va s'y ajouter avec la défaite de Russie, un désastre sans précédent où une armée de 500 000 hommes est engloutie. Il va ensuite, après l'abdication de Napoléon et son retour de l'île d'Elbe, connaître la défaite de Waterloo. Waterloo qui est probablement l'une des batailles de Napoléon les plus évoquées par le film, par la poésie, par le roman, alors qu'on néglige Austerlitz, qui est pourtant une victoire éclatante. Donc, voilà le malheur. Napoléon, vaincu, se retrouve exilé, prisonnier des Anglais, sur un îlot rocheux de l'Atlantique, très loin de l'Europe, séparé de sa femme et de son fils, dans une baraque battue par les vents et les pluies, alors qu'il a couché aux Tuileries, il a couché au Kremlin, il a couché à l'Escorial, il a couché à Schönbrunn, il a couché à Potsdam, bien le voilà à Longwood, dans une maison misérable. Le contraste est considérable. Et c'est de là que va naître véritablement la légende de Napoléon. Car dans l'entourage de Napoléon, il y a un chambellan qui l'a accompagné, qui s'appelle Lascaz, qui prend des notes, et alors que Napoléon meurt en 1821, nous célébrons le bicentenaire de cette mort à Sainte-Hélène, dont l'indifférence, ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle, aurait dit Talleyrand, eh bien, Lascaz va publier un livre sur précisément cette captivité de Napoléon. Ce sera en 1823, le Mémorial de Sainte-Hélène. Le Mémorial de Sainte-Hélène répond à trois objectifs. D'une part, décrire les conditions jugées inadmissibles de la captivité de Napoléon et montrer sa grandeur dans le malheur. Napoléon devient Prométhée enchaîné sur son rocher. Et puis, le mémorial rappelle les victoires de Napoléon. Nous sommes en 1823, qui règne en France Louis XVIII, un roi podagre qui ne combat pas. La Restauration n'aura comme simple victoire qu'une victoire misérable, le Trocadéro, aujourd'hui immortalisé par une esplanade. Enfin, troisième objectif de Lascaz, faire de Napoléon l'héritier de la Révolution, le héros des libertés et des nations. En réalité, c'est forcer la note. Il est évident qu'il n'y avait pas de liberté sous Napoléon. Il est évident que, nous allons y revenir, la nation a été écrasée sous Napoléon. Mais cela devient plus convaincant quand il se trouve que Napoléon est retenu à Sainte-Hélène et prisonnier de la Sainte Alliance, celle qui, précisément dans ces années 1820, est en train d'écraser les mouvements nationaux et les mouvements libéraux qui secouent l'Europe. Alors, eh bien, il ne reste plus à Bonaparte, Napoléon, que d'en confisquer la tête. Les romantiques, Victor Hugo, Dumas, Stendhal, Nerval, Musset, Vigny, vont lire le mémorial. Ils vont le lire, ils vont l'admirer, et c'est eux qui vont créer ce qu'on peut appeler la légende hélénienne. Une légende des enfants du siècle qui fait que, lorsqu'on parle du siècle de Louis XIV, on dit Racine, Molière, La Fontaine. Lorsqu'on parle du siècle de Napoléon, on dit Hugo, Dumas, Balzac. Et puis, ce sera le moment le plus fort, résultat de ce courant romantique, le moment le plus fort de cette légende, le retour des cendres en 1840, avec précisément désormais le tombeau de Napoléon que vous pouvez aller voir aux Invalides. Ainsi, naît et se forme et s'impose une légende napoléonienne. Elle est mêlée à la gloire, aux masses de granit, au malheur, bref, tous les ingrédients sont réunis et je devrais y ajouter les figures féminines, Joséphine et d'autres, Marie Valeska, qui font partie également de cette légende. Alors, pourquoi aujourd'hui cette contestation assez virulente, pourquoi ce refus de commémorer ou de célébrer Napoléon pour le bicentenaire de sa mort? C'est qu'en effet, à côté de la légende dorée, nous allons découvrir une légende noire. Tout commence en 2005, pour l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, refuse que le gouvernement, que la République, soit associé à cette célébration d'Austerlitz, et il va même jusqu'à envoyer un navire français, le porte-avions Charles de Gaulle, se joindre à la flotte anglaise qui, elle, célèbre la victoire de Trafalgar. On ne peut pas faire pire dans le désaveu de Napoléon. Jusque-là, pourtant, le Conseil d'État avait célébré son bicentenaire, la Cour des comptes l'avait célébré, et on célébrait, et on a continué à célébrer les victoires de Napoléon. C'est qu'il y a toujours eu une légende noire qui est née, je vous l'ai dit, d'un courant royaliste, symbolisé par Chateaubriand, puisque Napoléon a pris la place du roi. Et il y aura traditionnellement un courant royaliste qu'on retrouvera dans l'Action française hostile à Napoléon. Et puis, il y a un courant libéral qui naît aussi à la chute de Napoléon, Benjamin Constant, qui lui aussi exige et souligne que Napoléon a confisqué les libertés. Et ce courant libéral va devenir ensuite un courant socialiste. Je vous rappelle qu'en 1871, la Commune abat la colonne Vendôme. Bref, cette légende noire a un certain nombre d'arguments que je vais maintenant vous exposer. D'abord, Napoléon aurait détruit la République. Un ancien Premier ministre, M. Jospin, écrit un livre, Le mal napoléonien, où il déclare que Napoléon a étouffé la République. Incontestablement, progressivement, la République va s'effacer au profit de l'Empire. Mais si Napoléon n'avait pas fait le coup d'État du 18 Brumaire, le coup d'État devait être fait par le général Hédouville, avec la complicité de Barras, au profit des royalistes. Et donc, aurait été restauré en 1799 Louis XVIII, un Louis XVIII qui venait de lancer la proclamation de Vérone, où il annonçait que, dès qu'il serait monté sur le trône, ce serait un retour pur et simple à l'Ancien Régime, à la monarchie absolue, aux privilèges, à la remise en cause de la vente des biens nationaux, à la renaissance de la féodalité et pourquoi pas du servage. Donc, Napoléon, par le coup d'État de 18 Brumaire, a empêché cette restauration. Et lorsque Talleyrand restaure enfin Louis XVIII en 1814, Louis XVIII doit accepter d'être un monarque constitutionnel, doit accepter la fin des privilèges, doit accepter la destruction de la féodalité. Les conquêtes de la Révolution, les principales, sinon toutes, ont été préservées. Et lorsque, en 1815, à son tour Fouché, restaure Louis XVIII, eh bien, à nouveau, Louis XVIII accepte la monarchie constitutionnelle, la destruction de la féodalité et la vente des biens nationaux. Bref, les conquêtes de la Révolution ont été sauvées par Napoléon, et d'ailleurs, lors du sacre, il jure, à la fin de la cérémonie religieuse, il jure de défendre ses conquêtes, et il faut dire qu'il les a effectivement défendues. Mais le régime napoléonien a été un régime qui a confisqué les libertés, liberté de la presse, liberté de conscience, etc. Deuxième grand reproche, Napoléon a été anti-féministe. C'est le code civil qui réduit la condition de la femme à être une mineure. Et l'on rappelle qu'il a persécuté Madame de Staël, qui avait des opinions féministes. Mais il faut replacer ce qui est incontestable dans le contexte de l'époque. Et rappeler que la Révolution française était résolument antiféministe. Il faut entendre le procureur Chaumette renvoyer à leur foyer les tricoteuses qui réclament un rôle dans la Révolution. Il faut rappeler que Olympe de Gouges, que vous connaissez, puisque Olympe de Gouges est maintenant partout sur les stades, les maisons de la culture, les crèches, etc., qui est l'héroïne du mouvement féministe sous la Révolution, eh bien, Olympe de Gouges est arrêtée sur ordre du comité de salut public et est guillotinée. Madame de Staël, elle, ne sera qu'exilée à Copé. Troisième grand reproche, c'est celui qui est le plus mis en avant, c'est celui de l'esclavage. Napoléon a rétabli l'esclavage. Alors, reprenons les faits tels quels, sans parti pris, sans jugement quelconque. Le 4 février 1794, la Convention a aboli l'esclavage dans toutes les colonies de la France. Certaines ont échappé à cette suppression de l'esclavage. D'abord, la Martinique, car la Martinique nous a été enlevée par les Anglais. Et d'autre part, à La Réunion, dans l'océan Indien, la Réunion, enfin les planteurs de La Réunion, ont refusé l'abolition de l'esclavage. Ce qui fait que l'esclavage n'a été aboli qu'à Saint-Domingue et à la Guadeloupe. En 1801, Bonaparte, entouré des deux autres consuls, fait une grande déclaration pour dire que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité des Noirs n'éprouveront aucune atteinte, aucune modification. C'est une déclaration qui est conforme à ce qu'a été la formation de Napoléon. Napoléon a été formé par Rousseau. Napoléon a été le disciple, l'admirateur de l'abbé Raynal qui a condamné l'esclavage, qui a condamné la colonisation. Et d'autre part, il faut bien le dire, Napoléon n'est pas raciste. Il n'a jamais tenu de propos contre les Noirs. C'est lui qui a intégré les Juifs dans la nation française. Bref, on ne peut pas s'attendre de sa part à un rétablissement de l'esclavage. Seulement, à la paix d'Amiens, en 1802, on nous restitue, les Anglais nous restituent la Martinique. Alors à la Martinique, évidemment, l'esclavage a été maintenu, tandis qu'il ne l'est pas à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Alors que faire ? Bonaparte pense à un senatus consulte qui admettrait que d'un côté il y ait des colonies avec des esclaves et de l'autre des colonies sans esclaves. Avec, il ajoute une nuance, progressivement l'extinction de l'esclavage par le travail forcé, ce qui d'ailleurs a été le cas aussi bien à la Guadeloupe qu'à Saint-Domingue où l'esclavage a été aboli, mais où par exemple à Saint-Domingue, Toussaint Louverture, qui aurait eu des esclaves, a imposé le travail forcé lorsqu'il est devenu le chef de Saint-Domingue. Donc, deux statuts différents. On en débat au tribunal, c'est d'accord. On en débat au corps législatif, c'est d'accord. Mais lorsqu'on arrive devant le Sénat, gardien de la Constitution, qui joue le rôle de notre Conseil constitutionnel aujourd'hui, le Sénat déclare qu'il n'est pas possible qu'il y ait deux statuts dans les colonies. Et donc, il retoque le projet de Napoléon. Alors, finalement, ce sera le décret du 20 mai 1802, celui qui est dénoncé comme rétablissant l'esclavage dans nos colonies. Alors, prenons ce texte. Cette loi du 20 mai 1802. Article 1er, il est dit, dans les colonies restituées à la France, c'est-à-dire la Martinique et Sainte-Lucie, l'esclavage est maintenu et le statut des Noirs restera le même que dans le Code noir, le fameux Code noir dénoncé. Donc, maintien de l'esclavage en Martinique. Article 2, il en ira de même dans les autres colonies, au-delà du Cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire la Réunion. La Réunion où l'esclavage avait, je vous le rappelle, été également maintenu par les colons qui avaient refusé d'appliquer le décret de la Convention. Article 3, la traite des Noirs est reconnue partout où il y a esclavage. La traite des Noirs ne sera supprimée par Napoléon qu'en 1815. Article 4, le régime des colonies est soumis pendant 10 ans au règlement que prendra le gouvernement. Donc, vous le voyez, la loi du 20 mai 1802 ne rétablit pas l'esclavage, elle le maintient, là où il était. Seulement, il faut continuer. À la Guadeloupe, on envoie le général Richepanse pour remettre de l'ordre. Et le général Richepanse est une brute. C'est quelqu'un qui ne transige pas et qui passe un mouvement anarchique qui s'est un peu développé à la Guadeloupe, va réprimer sévèrement, avec une cruauté épouvantable, les insurrections des anciens esclaves. Et le 16 juillet 1802, de sa propre autorité, il rétablit l'esclavage à la Guadeloupe. Il le paiera très cher. Car le général Richepanse, qui s'était illustré à la bataille de Hohenlinden, qui est un très bon général de la Révolution et qui avait sa rue à Paris, va la perdre. Le conseil municipal, probablement à juste titre, va supprimer la rue Richepanse pour lui substituer la rue Chevalier de Saint-Georges, un grand musicien noir. À Saint-Domingue, où avait régné Toussaint Louverture après la proclamation de l'abolition de l'esclavage, arrive le général Leclerc. Et les rapports entre le général Leclerc, qui est envoyé par Bonaparte pour, là aussi, rétablir l'ordre, introduire les lois à Saint-Domingue, le général Leclerc se heurte à Toussaint Louverture. C'est la guerre, une guerre où, finalement, Toussaint Louverture sera battu, capturé, finira misérablement dans une forteresse du Doubs, mais la résistance est si forte que Leclerc, victime de la fièvre jaune, meurt et que son successeur Rochambeau va continuer la guerre sans qu'il y ait rétablissement de l'esclavage. Simplement, nous avons une lettre de Rochambeau du 14 avril 1803. Il dit « l'esclavage devrait être rétabli », mais il ne le fait pas, à l'inverse de Richepanse. Donc, vous voyez, eh bien, la situation est très particulière. Ce n'est pas aussi simple qu'on le décrit parfois. Et si nous replaçons cet événement dans son contexte, je vous rappelle que l'esclavage est partout, que les Anglais ne l'ont pas aboli à la Martinique, que les Russes ont le servage, que les Hollandais, dans leur colonie, Java, ont des esclaves, que, pardonnez-moi, que l'esclavage est dans les États barbaresques, avec des esclaves chrétiens, que l'esclavage est en Afrique. Bref, partout, partout, il y a des esclaves. Et simplement, c'est l'honneur de la France d'avoir protesté et abolir l'esclavage, et c'est l'honneur de l'abbé Grégoire de s'être élevé contre l'esclavage et de continuer à s'élever contre l'esclavage en 1802-1803. Nous le paierons très cher, car l'abbé Grégoire, excusez-moi, c'est l'émotion qui m'étreint, l'abbé Grégoire est membre à l'Institut de la classe des sciences morales et politiques. Et cette attitude de l'abbé Grégoire, ainsi que celle de ses confrères qui sont hostiles au concordat, au point qu'il y a même un membre de notre académie qui jure que Dieu n'existe pas. Je jure que Dieu n'existe pas. Bref, tout cela irrite Bonaparte, qui réorganise l'Institut en supprimant la classe des sciences morales et politiques. Elle ne sera rétablie qu'en 1832, et donc dans la hiérarchie des académies, l'Académie des sciences morales et politiques arrive toujours en dernier. Ah, l'abbé Grégoire ! Quatrième grand reproche, Napoléon n'a cessé de faire la guerre. C'est un seigneur de la guerre, c'est un homme qui est constamment en guerre. Là encore, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que, en 1805, cette fameuse campagne avec Austerlitz, qui déclare la guerre ? C'est l'Autriche. En 1806, la fameuse campagne d'Allemagne avec Iéna, qui déclare la guerre ? C'est la Prusse. En 1809, la fameuse campagne d'Autriche avec Wagram, qui déclare la guerre ? C'est l'Autriche. En 1812, Napoléon attaque la Russie. Mais c'est la riposte aux concentrations de troupes qu'avait fait le tsar l'année précédente autour du duché de Varsovie, car le tsar craignait que Napoléon ne ressuscite le royaume de Pologne. Et donc, c'est une réplique. Reste la faute. La faute grave, c'est la guerre d'Espagne. En effet, en 1808, en avril 1808, Napoléon grisé, il a gagné partout. Il est vainqueur partout, il n'y a aucune résistance de s'opposer à lui en France ou dans les autres États. Grisé, il décide tout à coup de remplacer la dynastie des Bourbons d'Espagne par son frère aîné, Joseph. D'un trait de plume, sans consultation, de lui-même, sans motif même valable, sauf le fait que l'Espagne n'est pas une alliée très fidèle. Mais régner, faire régner par un frère aîné l'Espagne, c'est incontestablement une décision prise individuellement sans motif. Le résultat, c'est que l'Espagne va se soulever contre Napoléon, qu'il va y avoir un mouvement national qui va enclencher une guerre épouvantable, une guerre de guérilla, comme à Saint-Domingue, avec des atrocités de part et d'autre. Un général français tombe aux mains des insurgés espagnols. Il est plongé dans l'huile, dans une cuve d'huile bouillante. On scie des prisonniers français entre deux planches. Et de l'autre côté, ce sont des viols, ce sont des exécutions massives, des pendaisons, des fusillades. Bref, cette guerre d'Espagne que va immortaliser Goya dans les désastres de la guerre, c'est une atrocité dont Napoléon porte la responsabilité. Et les conséquences vont être que ce mouvement national qui est né en Espagne, il va gagner le reste de l'Europe, il va gagner le Grand Empire. C'est en Allemagne, Staps qui tente, au nom de l'unité allemande, de poignarder Napoléon. C'est Palm qui publie une grande brochure pour dénoncer la domination française sur l'Allemagne. En Italie, c'est Leopardi qui proteste contre l'abus de l'usage de la langue française. Il dit que la langue italienne est bien supérieure à la langue française. C'est en Belgique, c'est en Hollande, partout, que le sentiment national, qui avait été un peu oublié, renaît. Napoléon a oublié le grand principe de la Révolution, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il va le payer très cher, car c'est de l'affaire d'Espagne que va partir l'écroulement progressif du Grand Empire, de cette Europe napoléonienne qui était pourtant si magnifique. Mais à la légende noire s'ajoutent toujours des relents de légendes dorées. Ce n'est rien de très simple, car n'oublions pas quand même que lorsque Napoléon envahit l'Espagne, il apporte les idées de la Révolution. L'Espagne est gouvernée par une monarchie absolue vermoulue, l'économie espagnole est en désastre complet, et il y a l'Inquisition qui règne, qui est l'intolérance religieuse. Or ça, Napoléon l'abat. Il détruit, ferme l'Inquisition, il ferme les couvents, il exige une monarchie beaucoup plus libérale que n'était la monarchie absolue des Bourbons. Bref, il va rencontrer des adhérents, il va rencontrer des Espagnols qui sont convaincus de l'utilité de cette intervention française. Ce sont ceux qu'on appellera les afrancesados, comme le grand poète Moratine, ou comme Goya lui-même, qui, lorsque Joseph Ier devra quitter l'Espagne vaincu par l'insurrection, Goya devra quitter aussi l'Espagne et se réfugier à Bordeaux. Alors, vous le voyez, c'est jamais très simple. La figure de Napoléon, elle est partagée entre une légende dorée et une légende noire qui s'en mêle quelquefois. Et je devine maintenant la question que vous allez me poser pour conclure. Et vous-même, que pensez-vous de Napoléon ? L'historien, chers élèves, et futurs peut-être historiens parmi vous, l'historien ne juge pas. Il porte sur son sujet un regard froid. Ce n'est pas un historiographe comme les Racine pour Louis XIV. Lui, il se contente d'examiner les documents, de les critiquer au besoin, d'exposer les faits et de les remettre dans le contexte de l'époque, ce qu'on oublie parfois. C'est aux philosophes, à Bossuet, à Hegel, à Marx, à Spengler, de dégager un sens à cette histoire. Et c'est aux moralistes ou aux politiques d'en tirer des conclusions. L'historien se contente d'exposer, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez maintenant la parole, vous pourrez pencher pour la légende dorée, pour la légende noire. En tout cas, vous aurez eu affaire dans cette conférence à un homme de génie, avec ses faiblesses et ses contradictions, mais aussi ses victoires. Merci de m'avoir prêté attention. Vous avez maintenant la parole.
Je ne suis pas Palma.
Merci pour ces applaudissements. Je vous disais, je ne suis pas Talma déclamant Polyeucte. Simplement, vous avez maintenant la parole pour les questions, toutes les questions que vous pouvez poser sans contrainte. N'hésitez pas à vous affirmer et poser même des questions dans la mesure où je pourrais y répondre, évidemment, si elles sont trop précises.
Bonjour.
Bonjour.
C'était pour vous demander si, pour vous, comme les Anglais, qui, par leurs hymnes nationaux, qui n'ont pas simplement God Save the Queen, mais Rule Britannia et Pomp and Circumstances d'Edvard Elgar, est-ce que la France aurait dû garder aussi en mémoire l'hymne de la Révolution et de l'Empire, qui est le chant du départ?
Très bonne question. En effet, j'aurais dû l'évoquer. Il y a un problème des hymnes sous Napoléon. En effet, on ne joue plus la Marseillaise. La Marseillaise disparaît et c'est un hymne qui est devenu non pas séditieux, puisqu'il rappelle la Révolution, mais probablement par des susceptibilités, des conflits de personnes, je dirais de femmes. J'ai étudié, j'ai fait un livre sur Rouget de Lisle et Napoléon, sur leur rapport. Il y a une rivalité amoureuse autour de Joséphine. Enfin, la Marseillaise n'est jamais jouée. On joue le chant du départ, oui. On joue Veillons au salut de l'Empire, oui. Et ce sont donc les seuls hymnes qui sont joués avec la marche consulaire. Mais pas de Marseillaise, effectivement. Oui, et s'il y a une autre question ?
Donc déjà, bonjour et merci d'être venu. Donc j'aimerais, est-ce que dans la légende noire Napoléon, il n'y a pas aussi tout ce qu'il a fait par rapport à l'affaire du duc d'Enghien ou même l'attentat de la rue Saint-Nicaise, voire ses relations avec le pape qui étaient très conflictuelles?
Alors là, il y a deux choses. Il y a effectivement, vous avez évoqué l'attentat, et je vous demanderai quand vous parlez de vouloir bien enlever votre masque, tant pis pour vos voisins, parce que sinon on ne comprend pas toujours très très bien la question. Merci. Donc, vous avez évoqué l'attentat de la rue Saint-Nicaise. C'est un attentat qui est la réplique des royalistes lorsqu'ils découvrent que Bonaparte n'est pas le général Monck qui rétablit la monarchie, mais qu'il garde le pouvoir à son profit. L'attentat de la rue Saint-Nicaise a failli réussir. Il a fait de nombreux morts. C'est le premier attentat à la machine infernale. En effet, c'est le premier attentat à la voiture piégée. Et c'est le premier attentat où la police de Fouché, va remonter des débris de la charrette jusqu'au coupable. C'est la première fois, véritablement, dans une enquête policière, que l'on utilise les indices. Les indices, c'est-à-dire la charrette, et puis le cheval qui était attelé à la charrette, qui portait la charge d'explosifs, et du cheval, la tête a été conservée. Le reste a été emporté, mais la tête a été gardée. Alors les sbires de Fouché, ceux de la préfecture de police, vont aller chez tous les marchands de chevaux, taper à la porte, dire « Bonjour Père Mathieu, vous connaissez ce cheval ?»« Non, je n'ai jamais vendu une Rocinante pareille. » »« Bonjour Père Ernest, vous connaissez ce cheval ?»« Ah non, je n'ai jamais vendu ce cheval. » Bonjour, Père Philippe, vous connaissez ce cheval? Ah oui, je l'ai vendu, c'était une vieille Rocinante que j'ai vendue à des gens qui étaient idiots, et vous pourriez nous en donner le signalement? Ah mais bien sûr, je me souviens, là était... Et donc on va remonter ainsi à partir de la topographie, car on avait des fichiers de topographie Schwann, ce qu'on appelait la topographie Schwann, on va retrouver le signalement de ces agents Schwann, et Paris a été immédiatement bouclé après l'attentat
on va finir par les capturer à Paris. Donc, c'est la première enquête policière de cette police qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, parce que ce n'était pas le sujet, mais qui a été d'une efficacité redoutable. Alors, la deuxième question, si vous voulez bien la rappeler.
C'était par rapport à l'affaire du duc d'Enghien.
Là ?
L'affaire du duc d'Enghien.
Je n'ai pas compris.
Je le prononce peut-être mal le nom.
Le ? Ah, le duc d'Enghien. Ah oui, donc, ah, oui, je vois, donc nous continuons sur... J'entendais mal, heureusement que vous avez enlevé votre masque. Le duc d'Enghien, oui. Le duc d'Enghien... Alors là, effectivement, il y a eu violation du droit international dans la mesure où le duc d'Enghien a été enlevé sur le territoire de Bade. Le duc d'Enghien, c'est le dernier des Condés et il a été dans, il a émigré, il est donc émigré dans le duché de Bade. Après la découverte d'une nouvelle conspiration, celle de Landou, celle de 1804, après la découverte donc de cette conspiration qui envisageait de faire enlever Bonaparte lorsqu'il se rendait de Paris à Malmaison, et probablement de l'assassiner, après la découverte de cette conspiration qui était menée par Cadoudal, et revoici un général dont vous avez évoqué le nom, Pichegru, après donc cette tentative d'enlèvement qui a été déjouée, Napoléon décide de frapper un grand coup face aux royalistes. Jusque-là, il s'est tenu tranquille, et donc il décide de faire enlever, sur la suggestion de Talleyrand et de Fouché, il décide de faire enlever le duc d'Enghien sur le territoire de Bade et de l'amener à Paris. Le duc d'Enghien va être traduit devant une commission militaire. Il n'y a aucune preuve que le duc d'Enghien avait trempé dans la conspiration Cadoudal-Pichegru. Mais le duc d'Enghien, comme émigré, a servi dans les armées étrangères. Et tout émigré ayant servi dans les armées étrangères, c'est une loi de la Révolution, doit être passé par les armes. Et c'est l'argument que l'on va utiliser pour fusiller le duc d'Enghien. L'exécution du duc d'Enghien, c'est la réplique à la tentative Pichegru-Cadoudal d'assassiner Napoléon sur la route de Malmaison. Et là, vous voyez le côté corse de Napoléon, c'est de la vendetta. Mais il n'en reste pas moins que l'exécution du duc d'Enghien sera reprochée effectivement à Napoléon, d'abord par Chateaubriand évidemment, et par toute la légende noire d'inspiration royaliste. Incontestablement, c'est une faute et que Napoléon regrettera, il regrettera à Sainte-Hélène dans le mémorial, il semble qu'il ait eu la main forcée par Talleyrand et par Fouché, qui craignaient l'un et l'autre, ce sont les âmes damnées de la période, qui craignaient l'un et l'autre le retour de la monarchie. L'un était un évêque apostat qui avait joué un rôle au début de la Révolution et l'autre, Fouché, était régicide. L'exécution du duc d'Enghien mettait fin à tout espoir de voir Bonaparte se transformer en général Monk. D'autres questions ?
Bonjour.
Bonjour.
Sans avoir eu un rôle particulièrement reconnu dans la Révolution française, les femmes avaient tout de même un rôle. Pourquoi Napoléon a-t-il pris la décision de les rendre éternellement mineures ?
Ah, pourquoi ? Effectivement, je ne sais pas dans le secret de Napoléon. Incontestablement, il y a chez Napoléon un côté assez antiféministe. C'est un général, c'est un militaire qui donc ne se laisse pas très séduire facilement par les femmes. Il a des maîtresses, mais ce sont des maîtresses qu'il laisse ensuite à l'abandon. Et finalement, même avec Marie Valeska, lorsqu'elle vient le rejoindre à l'île d'Elbe, il lui fait comprendre qu'il faut repartir. Donc, Napoléon, oui, a laissé à la femme son statut de mineur. C'était dans le contexte de l'époque. Les femmes avaient pourtant, vous avez raison, joué un rôle dans la Révolution. Certaines s'étaient illustrées, notamment lors de la prise des Tuileries le 10 août, oui, mais bon, Napoléon, dans le contexte de l'époque, considère que c'est à l'homme de diriger enfin, les affaires de la famille, d'être le chef de famille. Il y a peut-être là aussi, en dehors d'une, je ne conteste pas une certaine misogynie, il y a indiscutablement la volonté d'ordre. Il faut éviter les querelles familiales, et donc c'est le chef de famille qui tranche. Avec une injustice, dans les problèmes d'adultère, il s'en tire mieux que l'épouse.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, il me semble que Napoléon ait été représenté comme victime durant son exil à Sainte-Hélène, notamment dans le mémorial de Sainte-Hélène. Donc ma question, c'était, est-ce que l'on sait si les conditions étaient vraiment si difficiles qu'on pourrait les décrire pour le présenter comme une sorte de martyr, ou alors si vraiment elles ont été exagérées pour accentuer sa légende après sa mort.
Merci pour cette question. Effectivement, Napoléon, à Sainte-Hélène, exilé par les Anglais, s'en tire très bien, pour une raison fort simple. C'est que lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe, au congrès de Vienne, où sont toutes les nations européennes, il a été décidé de mettre Napoléon hors la loi. Donc il est hors la loi. Ce qui signifie que dès qu'il tombe entre les mains de ses ennemis, il peut être exécuté sans qu'il y ait besoin de le juger. C'est ce qui était arrivé à Robespierre, qui avait été mis hors la loi par la Convention, le 9 Thermidor, et qui donc passe simplement devant le tribunal révolutionnaire pour une reconnaissance d'identité et immédiatement guillotiné. Donc le sort de Napoléon, à partir du moment où il se rend aux Anglais, aurait pu être qu'il soit fusillé, qu'il soit pendu, qu'il soit jeté dans un cachot. Les Anglais ne l'ont pas fait. Ils ont même autorisé Napoléon à partir en exil avec une partie de sa vaisselle, avec une petite cour de 4 personnes, dont 2 généraux et dont un chambellan, Lascazes, et il a également des serviteurs. Et à Longwood, il va avoir donc ses soirées avec sa petite cour, ses 4 personnes, et il aura un cuisinier, il aura le Mamelouk Ali qui monte la garde auprès de lui, et par conséquent, on ne peut pas dire que Sainte-Hélène, ça soit Buchenwald. Ils s'en foutent beaucoup. Et donc, mais, ce que Napoléon comprend, c'est que le contraste, les Anglais lui ont servi sur un plateau, le contraste entre sa position à Sainte-Hélène et ce qu'il était avant, c'est-à-dire le maître de l'Europe, couchant dans des palais et autres, ce contraste est énorme. Et par ailleurs, Hudson Law se prête au jeu des humiliations. Toute la tactique de Napoléon, c'est de susciter des attaques, des perfidies, des bêtises d'Hudson Law pour se poser en martyr. Il le dit. Si je n'étais pas. Il dit lui-même, la peau, le martyr me dépouille de ma peau de tyran. Le martyr me dépouille de ma peau de tyran. D'un seul coup, on oublie, avec ce calvaire très relatif décrit par Lascaz, on oublie effectivement l'exécution du duc d'Enghien, on oublie la condition des femmes, etc. C'est un homme maître du monde qui se retrouve sur un rocher pratiquement abandonné et sans plus de moindre pouvoir. C'est ça le contraste et c'est ça qui va séduire les romantiques. C'est Prométhée. Donc oui, c'est consciemment qu'il va lui-même organiser son martyr. Le martyr me dépouille de ma peau de tyran. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, dit-il, il ne serait pas Dieu. Donc, je vous rends tout à fait d'accord pour vous dire que, donc, à Sainte-Hélène, les conditions auraient pu être infiniment plus dures de la part des Anglais, mais Napoléon s'arrange pour les durcir encore, pour jouer les martyrs.
Je reprends la question qui a été oubliée sur les rapports de Napoléon et de la religion, le concordat, les rapports avec le pape, etc.
Oui, alors donc, effectivement, nous n'avons fait qu'évoquer le concordat, nous n'avons fait qu'évoquer effectivement le problème religieux. Le problème religieux, Napoléon croyait-il en Dieu ? Première question, si vous voulez, à laquelle nous répondrons. Il est déiste, formé par Rousseau. Et l'abbé Raynal lui-même, son maître à penser, était tout à fait très proche des idéologues, bien qu'abbé. Donc, les dernières paroles de Napoléon à Sainte-Hélène, consignées par Bertrand, nous sommes le 1er mai 1821, il va mourir le 5 mai, il se serait, car il faut faire confiance à Bertrand, il se serait tourné vers Bertrand en lui disant « La grande question, c'est après la mort. La grande question, c'est après. » Il y a un silence et il dit « Rien. » Ce qui signifie qu'il ne croit pas au paradis, qu'il ne croit pas à l'existence d'une autre vie après la mort. C'est le néant, il n'y a rien. Ce sont les presque dernières paroles qu'il prononce. Cela dit, il va recevoir l'extrême onction et se confesser, semble-t-il, auprès des prêtres, l'abbé Vignali, qui est là. Alors, le fait-il par un dernier remords, pour s'assurer malgré tout qu'il y a une autre vie, ou le fait-il parce qu'il doit mourir en souverain ? Donc, très difficile de vous dire, Napoléon a passé par toute une série d'états d'esprit, croyait-il en Dieu, n'y croyait-il pas. Une chose est certaine, c'est qu'avant la bataille, à l'inverse des généraux romains, il ne fait pas dire de messe. Et s'il y a quelquefois, après des victoires, un tédéum, bon, c'est l'usage, beaucoup plus qu'une croyance et une reconnaissance à l'égard de Dieu. À l'égard du pape, Napoléon, vous le savez, lorsqu'il mène la première campagne d'Italie, a des instructions du directoire d'aller attaquer Rome. Et il s'y refuse. La Rovellière Lepo veut, qui est un idéologue, qui est un des membres de la classe des sciences morales et politiques, la Rovellière Lepo veut que Bonaparte aille détrôner le pape. Bonaparte s'y refuse. Il veut jouer Milan et il veut aller frapper les Autrichiens ensuite en Allemagne. Donc là, on ne peut pas dire qu'il ait persécuté le pape à ce moment-là. Le pape va quand même être enlevé, le pape Pie VI, et mourra, vous le savez, en Avignon, enfin, pas exactement à Avignon, mais dans cette région de faiblesse et prisonnier de l'armée révolutionnaire. Napoléon pense qu'il est nécessaire de pacifier les esprits après le coup d'État de Brumaire, qu'il faut mettre fin à la guerre de Vendée et qu'il faut mettre fin aux persécutions religieuses. C'est donc pourquoi il envisage un accord avec le pape, ce sera le concordat.
et le nouveau pape Pie VII, qui est d'une tendance libérale. Il l'avait montré lors de l'invasion par les armées de la Révolution de l'Italie. Le pape accepte de signer ce qu'on va appeler le Concordat. Le Concordat met fin donc aux persécutions religieuses. Il reconnaît le culte catholique, alors que c'est un gros avantage. Je vous rappelle, si nous remontons à la Révolution, que, sur l'instigation de Talleyrand, les biens de l'Église avaient été confisqués pour permettre de résoudre le déficit de la dette qui était de 2 milliards. Qu'en échange, les prêtres recevaient, le clergé recevait un traitement de l'État. C'était une forme d'indemnisation. Que cette indemnisation, donc, entraînait une conséquence, c'est qu'il fallait prêter serment à l'organisation de cette Église, la constitution civile du clergé. Et donc, ça avait fait rebondir la chose entre ceux qui avaient prêté serment et pas serment. Et finalement, les thermidoriens, qui eux, comme les idéologues, étaient entièrement athées, il n'y a aucun problème, les thermidoriens, Fouché, Talleyrand et autres, décident finalement de séparer l'Église de l'État. Ce qui fait que le clergé, qui a perdu sa fortune, ne reçoit même plus un traitement, une indemnité, et donc se voit ruiné. Le Concordat est donc pour ce clergé une chance, puisque désormais, ce clergé va devenir un clergé de fonctionnaire et va retoucher un traitement. Mais en même temps, vous voyez que par les articles organiques qui complètent le Concordat, Napoléon met l'Église à son service. Ah, la séparation de l'Église et de l'État, c'est très bien, mais à ce moment-là, l'Église vous échappe. Si vous en faites des fonctionnaires, ah, vous voyez comment le problème change, car à partir de ce moment-là, vous les nommez. Bien sûr, le pape envoie l'investiture spirituelle, mais bon, le pape ne compte pas. C'est le gouvernement qui nomme les évêques, qui nomme les prêtres dans les paroisses. Donc, il tient son clergé. Et puis, il fait la même chose avec les protestants ou les pasteurs, à leur tour, vont connaître une organisation. On tient aussi bien le protestantisme. Et il y aura ensuite la grande organisation, mais là, je parle devant Monsieur le grand rabbin, le grand Sanhédrin, et la façon aussi dont on va incorporer les Juifs dans la nation française, avec aussi une organisation. On organise, mais en organisant, on met la main sur le pouvoir religieux. Désormais, Napoléon nomme les évêques, il tient le clergé. Alors, ça va aller plus loin. Parce que lorsque Napoléon, face à l'Angleterre qui ne peut plus envahir, décide de faire le blocus continental, c'est-à-dire de fermer l'Europe aux marchandises anglaises, pour ruiner l'économie anglaise puisqu'il ne peut plus débarquer et l'envahir. À ce moment-là, il demande à tous les pays d'Europe de se fermer. Le pape, qui a des états pontificaux, le pape refuse de fermer ses États au commerce anglais. Vous me direz que les Anglais sont anglicans, alors que Napoléon est catholique. Bon, enfin, le pape refuse de prendre parti dans cette guerre qui oppose l'Angleterre à la France. Et c'est à ce moment-là que Napoléon décide d'envahir les États du pape, de faire prisonnier le pape, et de l'envoyer en captivité à Savoie. Je rappelle qu'à ce moment-là, il est excommunié. Le pape l'excommunie, mais ça va très vite s'oublier. Simplement, ne pensez pas que, même si l'opinion ne réagit pas face à quand même cette arrestation du pape, cet internement du pape à Savoie, l'opinion ne réagit pas exagérément. Il y a quand même des jeunes gens, des jeunes gens qui n'admettent pas cette captivité du pape, qui n'admettent pas cette intolérance politique à l'égard de la religion. Ce sont une association des chevaliers de la foi, ce sont des jeunes gens qui se réunissent, qui forment une société secrète qui va diffuser la bulle d'excommunication de Napoléon, car c'est bien, ce n'a pas d'importance, on s'est bien gardé de le dire. Et donc ce sont ces jeunes gens qui vont jouer un rôle dans la chute de l'Empire, mêlé à la conspiration du général Mallet, et qui ensuite
lorsque, sous la deuxième restauration, Talleyrand et Fouché formeront un ministère, ce sont ces jeunes gens qui vont, au moment du vote, vont jouer contre ce ministère Talleyrand-Fouché, mener une propagande et finalement faire élire, sous la deuxième restauration, la fameuse Chambre Ultra. Voilà donc les rapports, si vous voulez, entre Napoléon et la religion. Effectivement, j'aurais dû en parler, vous avez eu raison de soulever le problème. Vous voyez, là aussi, c'est un problème extrêmement complexe. Je ne peux pas vous dire Napoléon croyait en Dieu, Napoléon était athée. On ne sait pas. Vous savez, il y a un film que je cite souvent, que je vous recommande, c'est Citizen Kane. Citizen Kane, c'est un film d'Orson Welles où un grand magnat de la presse meurt en disant ces mots, Rosebud, bouton de rose. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et il y a un journaliste qui mène l'enquête. Il arrive à Xanadu, le château de Ken, et à l'entrée, il y a un autre espacing, défense d'entrée. Il force la grille, il entre, et à la fin du film, il n'aura pas trouvé la solution. Il ne saura pas ce que veut dire Rosebud. Et on voit simplement la grille se fermer sur le mot « no trespassing ». C'est là l'une des limites de l'historien. L'historien est fondé sur les documents, il pose un regard objectif, il ne juge pas et très souvent, il ne peut pas pénétrer dans l'esprit des personnages qu'il étudie. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai une question à vous poser concernant le pouvoir de Napoléon. Donc, Napoléon possédait la plus grande armée d'Europe. Cependant, si tous les peuples d'Europe s'étaient soulevés en même temps, ils se seraient retrouvés dépassés par les événements. Alors, comment a-t-il su maintenir son pouvoir et son image sur un si grand territoire ? Malgré les divergences d'opinion et les nombreux peuples qui peuplaient l'Empire, il a su acquérir son pouvoir, mais comment a-t-il su le conserver ?
Bon, effectivement, je vous ai dit qu'il y avait le Grand Empire, que des villes comme Bruxelles, comme Amsterdam, comme Hambourg, comme Genève, comme Rome, à partir du moment où les États du pape ont été annexés. Donc Rome est une ville française avec une administration française. Alors comment ça se maintient ? Ça se maintient par des troupes. Il y a des garnisons. À Rome, il y a des soldats. Il y a également une administration qui se met en place avec des préfets. Partout, il y a des préfets. Et ces préfets vont souvent nouer des relations avec les élites. C'est les élites que l'on gagne, ce n'est pas le petit peuple, c'est les élites. Et généraux ou préfets ou administrateurs qui arrivent dans ces pays conquis, dans ces villes conquises, se retrouvent en contact avec des élites qui, ne l'oubliez pas, à l'époque, le français est la langue la plus parlée en Europe. On parle français comme aujourd'hui, on parle anglais, c'est le français qui joue le rôle de l'anglais et même les vainqueurs de Napoléon, lorsqu'ils tiennent le congrès de Vienne, les actes finaux du congrès de Vienne sont en français, alors que c'est contre Napoléon. Donc, il y a une administration qui se met en place. Il y a évidemment la police, il y a des commissaires de police partout. Bref, c'est la même administration qu'en France que vous retrouvez dans les pays conquis. Mais vous semblez considérer comme un miracle que Napoléon ait pu ainsi réunir l'Empire sous sa domination. Seulement, ça n'a pas duré longtemps. Ne l'oubliez pas, c'est extraordinaire, cette Europe napoléonienne. Mais elle s'est très vite écroulée, avant même l'affaire d'Espagne, mais ensuite, avec l'Espagne, eh bien, c'est partout que se développe une résistance à Napoléon, auquel se mêlent précisément les fait religieux pour certains, le fait que le pape soit prisonnier de l'empereur. Bref, l'Empire va très vite s'écrouler. C'est une construction éphémère. Mais il est vrai qu'à un moment donné, en 1811, disons, ce serait une sorte d'apogée de l'Empire où, effectivement, Napoléon tient toute l'Europe, l'Europe du Grand Empire, car
la Russie lui échappe, évidemment. Toute l'Europe, sous sa domination, attend très bref.
Oui. Oui. Bonjour. Est-ce que, à la suite de la Restauration...
Oui.
À la suite de la Restauration, les mouvements d'idées et les révolutions en faveur des libertés ont un peu effacé cette légende napoléonienne en faveur de celle de 1789.
Pardon, je n'ai pas compris.
Ah.
Non, parce qu'on entend mal. C'est vous, je pense que je me répercute bien, mais vous répercutez mal.
Pardon.
La sono est,
j'ai une question, du
est
coup...
conçue pour qu'à la tribune, on ne puisse pas, on peut imposer ses idées, mais que du public, on ne peut pas. C'est ça ma force par rapport à vous.
Je me demandais si à la suite de la Restauration, les mouvements d'idées et comment dire, les révolutions en faveur des libertés ont pas un peu effacé cette légende napoléonienne en faveur de celle de 1789, de la Révolution, en fait.
Sous la Restauration, non.
Non, pas forcément la Restauration. Tous les mouvements d'idées qui ont... celle de.
Ont suivi ensuite.
Oui, voilà.
Ah ben oui, ensuite, évidemment. Dans les romantiques même, il y a des romantiques qui sont favorables à la Révolution. L'histoire de la Révolution de Michelet est suivie d'une histoire du XIXe siècle, qui est l'histoire de Napoléon, que, évidemment, je ne saurais recommander à mes étudiants, parce que Michelet règle ses comptes. Et donc, il y a la révolution, l'idée de la révolution est encore très forte, mais ce qu'a montré l'astuce de Napoléon, enfin de Lascazes, c'est d'avoir fait de Napoléon le champion de la révolution. C'est lui qui incarne la révolution française. Et évidemment, dans la mesure où il est l'homme qui a sauvé les conquêtes de la Révolution et qui a été persécuté par ceux qui combattent les idées révolutionnaires, c'est-à-dire sous la restauration de la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, c'est une alliance, pas contre Napoléon lui-même, mais contre les idées révolutionnaires. Car ces idées révolutionnaires, vous avez raison, elles se répandent. Elles se répandent. La Révolution française a marqué non seulement la France, mais l'Europe, car il y a eu une Europe révolutionnaire. La Belgique, l'Italie, enfin certains, Naples par exemple, Genève, ont été des. Il y a eu ce qu'on appelait des républiques sœurs. Il y a une république batave, il y a une république cisrhénane, il y a une république. Et donc les idées de la Révolution, à travers ces républiques sœurs sous le Directoire, se sont répandues et sont restées, effectivement. Et elles ressurgissent après la chute de l'Empire. Donc oui, vous avez raison, mais de plus en plus, on a eu tendance à confondre Napoléon et la Révolution. D'ailleurs, c'est très net dans les programmes. On ne conçoit pas la Révolution sans Napoléon. Et on ne conçoit rarement Napoléon sans la Révolution. Ils se confondent. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Oui.
Bonjour. J'aimerais savoir si,
bonjour,
pour vous, à l'heure actuelle, Napoléon ferait un bon chef d'État.
Pardon, Napoléon fait ?
Est-ce que Napoléon, à l'heure actuelle, ferait un bon chef d'État ?
Oui. Alors, oui, vous me posez la question. Oui. Alors, deux exemples. Vous avez l'épidémie qui se répand actuellement. Et cette épidémie, on peut se demander, on peut critiquer le gouvernement ou l'approuver en se demandant s'il a choisi la bonne ou la mauvaise solution. Alors, qu'aurait fait Napoléon ? Eh bien, je peux vous le dire, il l'a fait. En effet, à partir de 1813, le typhus se répand apporté par les armées vaincues de Napoléon qui l'apportent d'Allemagne. Le typhus va se répandre. C'est une maladie plus redoutable que celle que nous connaissons, que la Covid aujourd'hui. Le typhus, vous en mourrez. Et donc, on va confiner. Eh oui, Napoléon confine. C'est-à-dire que tous les soldats qui arrivent et qui sont porteurs de typhus, ça se voit. C'est plus évident que la maladie que nous connaissons actuellement. Et donc, on va les confiner, on va les isoler, et l'épidémie de typhus qui commence en 1813 sera très vite résorbée par le confinement. Maintenant, vous me direz, les casseurs, les désordres, ce qui fait que, bon, il y a un sentiment d'anarchie. Alors là, ben, vous avez la police de Fouché qui n'hésite pas, qui emploie les grands moyens. Et la police de Fouché, eh bien, elle n'a pas les magistrats pour la contrer, parce que la police de Fouché fait savoir au juge qu'il faut qu'il suive les indications de la police. Il n'y a pas d'antagonisme sous Napoléon, ou très faiblement, entre la police et la magistrature. Là, la loi est la loi, on l'applique, et il n'y a rien d'autre. Donc, vous voyez, oui, si Napoléon était là, eh bien, l'épidémie aurait peut-être été plus facilement confinée, et peut-être il n'y aurait pas ces manifestations de policiers contre les juges, comme ça s'est déroulé l'autre jour. Mais, il faut quand même relativiser. Il faut toujours en placer dans le contexte de l'époque. Sous Napoléon, on circule très peu. On se déplace très peu. Seules les armées se déplacent. Mais si vous vous déplacez, vous devez toujours avoir un passeport. Et ce qui fait que les voyages, les grands voyages, il n'y a plus le tourisme. Les voyageurs anglais qui venaient au début du consulat, ils ne viennent plus. Bref, la circulation des hommes fait qu'il n'y a pas la circulation des épidémies. C'est ça aussi l'avantage de Napoléon sur le gouvernement actuel. Il n'a pas des habitants de la Guyane, des Indiens, des Colombiens, des Brésiliens qui viennent à Paris. Donc, c'est beaucoup plus facile à confiner à ce moment-là.
Bonjour, c'est une question concernant la relation de Napoléon avec l'esclavage.
Oui.
Donc vous aviez dit qu'il n'était pas spécialement favorable, mais comment on peut expliquer alors qu'il a enrôlé de force des esclaves turcs lors de la campagne d'Égypte ?
Alors, dans la campagne d'Égypte, il y a effectivement, d'abord, il y a deux choses. Avant d'arriver en Égypte, il passe par Malte. Et à Malte, il abolit l'esclavage. Mais nous sommes là sous le directoire, nous ne sommes pas encore, donc c'est le gouvernement politique, c'est celui du directoire. Nous ne sommes pas, Napoléon n'est pas encore premier consul, comme il le sera en 1802. Donc, il abolit l'esclavage à Malte, il passe. En revanche, effectivement, il ne l'abolit pas en Égypte. Il y a des esclaves, les soldats français achètent des esclaves, il y a des témoignages, et bien entendu, vous devinez facilement, les esclaves femmes sont assez recherchées. Mais il y a très peu d'esclavage. Napoléon ne peut pas l'abolir en Égypte, il est simplement en terre conquise, mais il y a des autorités, il y a une religion, il y a l'islam, il y a des muftis, donc il n'est pas dans la situation où il pourrait, en Égypte, abolir l'esclavage comme il le fait à Malte. Malte, c'est une prise de guerre, l'Égypte aussi, mais il n'y a qu'une petite armée au milieu d'une population très grande. Donc, effectivement, l'esclavage reste en Égypte et restera ensuite, après le départ de Napoléon.
Oui, on parle beaucoup d'une fiction républicaine sous l'Empire. Est-ce que Napoléon n'a pas été aussi victime d'une espèce de fiction monarchique vis-à-vis de l'Empire ? Je vois deux points là-dessus. Le premier, c'est ses rapports vis-à-vis des autres cours d'Europe, des autres familles régnantes, particulièrement l'Autriche et la Russie. Et sur la question dynastique, le pauvre roi de Rome est oublié lors de l'affaire Mallet, lors des deux abdications. Donc, est-ce que finalement, la grande illusion, ça n'aurait pas été l'illusion monarchique, il n'y aura pas de quatrième dynastie en France.
Effectivement, je partage tout à fait votre point de vue. Pour la fiction républicaine, je vous rappelle que après le sacre, les monnaies portent encore, pendant un certain temps, le nom de république. Donc, on n'efface pas tout de suite la république. Il faut donner des gages au personnel politique de l'époque, c'est-à-dire les Fouché, les Cambacérès et autres, qui, je vous rappelle, sont des régicides en plus, et qui ont proclamé la république avec la Convention. Donc, la fiction reste. La fiction monarchique, effectivement, vous avez parfaitement raison, j'ai fait un livre, notamment sur le sacre, en donnant comme titre « Le sacre, une cérémonie inutile ». C'est inutile. D'abord, il n'y a pas d'onction religieuse, puisque finalement le pape se contente d'une vague bénédiction. Et le sacre est une cérémonie qui est destinée à faire de Napoléon l'égal de l'empereur d'Autriche et de l'empereur de Russie, comme vous l'avez dit, et de lui donner une suprématie sur Louis XVIII, qui n'a pas, lui, été sacré, même s'il l'est, il se présente comme le souverain légitime. Mais cette cérémonie du sacre, c'est une comédie. Lorsque vous voyez que ça s'est déroulé à Notre-Dame, qui était déjà très dévastée, encore très dévastée par les excès des hébertistes, quand vous voyez qu'il y a là toute une série de gens qui sont athées, complètement athées, et qui suivent cette cérémonie, il faisait très froid en se gelant, donc tout ça fait que la cérémonie a été complètement manquée, il n'y a pas de mouvement populaire, il n'y a pas d'acclamation, et ensuite, l'affaire Mallet va montrer qu'il n'y a pas de monarchie. L'affaire Mallet, 1812, je vous rappelle, c'est un général, en octobre 1812, qui va tenter un coup d'État contre Napoléon. Napoléon est en Russie, il est à Moscou. Et donc, le général Mallet va se présenter devant les autorités en leur disant, voilà, nous venons d'apprendre que Napoléon est mort devant Moscou. Donc, il est mort, nous allons créer un gouvernement provisoire, un gouvernement qui va gouverner la France à la place de Napoléon. Or, nous sommes en 1812. En 1811, en mars 1811, est né le fils de Napoléon, l'Aiglon. Eh bien, personne n'y pense. Et c'est le préfet de la Seine, Frochot, qui dit, alors qu'il a ouvert ses salons de l'hôtel de ville à ce faux gouvernement provisoire, puisque Napoléon n'est pas mort, et qui dit, lorsqu'on lui rappelle Napoléon, ensuite rentrant, on va leur rappeler leur serment, et va leur rappeler l'existence du roi de Rome, il dira, ah oui, ce diable de roi de Rome, on n'y pense jamais. On n'y pense jamais. Ce qui signifie que le principe d'une monarchie héréditaire ne s'est pas implanté dans les esprits dans le cas des Bonaparte, alors qu'il le reste dans le cas des Bourbons. C'est une dynastie trop jeune, il aurait fallu, Napoléon le dira, il aurait fallu que je sois le petit-fils d'eux pour à ce moment-là imposer ma dynastie. Donc effectivement, Napoléon n'est pas parvenu à imposer cette dynastie. En 1814, effectivement, finalement, lorsqu'il abdique, il ne pourra pas abdiquer en faveur du roi, dans un premier temps, il abdique en faveur du roi de Rome, mais la trahison de Marmont fait qu'il ne peut plus abdiquer en faveur du roi de Rome. Et en 1815, lorsqu'il abdique à nouveau, c'est là le fait que l'Aiglon est prisonnier des Autrichiens, donc il ne l'a pas sous la main. Ce qui fait qu'il n'y aura pas, ou sauf un temps très bref, quelques heures, un Napoléon II en 1815, et finalement, ce sont les Bourbons qui deviennent les souverains légitimes, et ni Fouché ni Talleyrand ne s'y trompent. Je tiens à vous dire, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qu'il y a deux personnages, si vous voulez comprendre la période, qu'il faut étudier, dont il faut lire les biographies, c'est Fouché et Talleyrand. Je sais bien, ce sont des traîtres. Ce sont de beaux traîtres. Il y a de beaux traîtres. Et effectivement, Chateaubriand les a stigmatisés lorsque, en 1815, ils vont restaurer une deuxième fois Louis XVIII, qu'ils vont voir à Saint-Denis, et où Chateaubriand les voit passer et dit « J'ai vu passer le vice appuyé sur le bras du crime.
Le vice, c'est Talleyrand. Le crime, c'est Fouché. Parce que Fouché avait fait mitrailler les insurgés à Lyon. Donc, mais ce sont eux qui sont les personnages qu'il faut suivre, ce sont eux qui font l'événement, qui le devinent. L'affaire d'Espagne, dont je vous ai dit, c'est la faute de Napoléon. Lorsque Napoléon est engagé en Espagne, Talleyrand et Fouché, qui sont comme chien et chat, qui se jalousent, se retrouvent le 20 décembre 1808 à Matignon, qui à ce moment-là, l'hôtel Matignon est propriété de Talleyrand. Ils se retrouvent tous les deux et s'entendent pour prévoir que si le régime, si Napoléon s'effondre, s'il est tué pendant l'affaire d'Espagne, il faut avoir un régime de substitution. Et il prévoit à ce moment-là que ce serait Murat, beau-frère de Napoléon, donc on sauve le côté napoléonien, et en même temps général issu de la Révolution. Il avait même à un moment donné pensé à changer son nom de Murat en Marat. Et donc, avec Murat, on a un gouvernement de substitution. C'est-à-dire que d'emblée, alors que nous sommes qu'en décembre 1808, que la campagne d'Espagne ne fait que commencer, Talleyrand et Fouché ont compris que là était la faute de Napoléon. D'autres questions ?
Je voudrais revenir sur la question de la légende noire. Alors, c'était forgé par la coalition. Hein. La coalition caricaturait Napoléon comme une bête, un animal. Et il y a aussi eu l'ultimatum de Plinitz, où avec Metternich, la coalition prévoyait une paix avec Napoléon, assez défavorable alors qu'il avait commencé à gagner la campagne d'Allemagne. Oui. Et Napoléon, au début, avait accepté cette paix. Et en fait, la coalition ne s'entendait pas du tout et à chaque fois réclamait plus de choses à Napoléon. Et de cette façon, en fait, il faisait passer Napoléon pour un tyran qui voulait toujours la guerre, alors qu'il ne pouvait pas accepter ces paix qui étaient trop défavorables. Donc en fait, ma question, ça serait... votre point de vue, justement, sur cette légende noire de la coalition.
Oui, il y a eu, vous avez évoqué Metternich, vous avez évoqué effectivement cette rencontre où, en réalité, il n'y a pas de possibilité, Napoléon se rend bien compte qu'il n'y a pas de possibilité d'entente avec les souverains. Il a essayé par le mariage avec d'abord le tsar Alexandre, mais la cour de Saint-Pétersbourg l'a refusé, et ensuite il l'a essayé avec l'Autriche, donc il y a eu ce mariage avec Marie-Louise, mais en réalité Metternich n'a pas du tout l'intention de... Il s'agit simplement de sauver, lorsque on livre Marie-Louise à l'Autriche, à Napoléon, il s'agit simplement de sauver l'Autriche, car Napoléon prévoit, après Wagram, après la victoire de Wagram, le dépècement de l'Empire autrichien. Et les Hongrois sont prêts à s'émanciper de l'Autriche. Et il y a même une proclamation de Napoléon aux Hongrois, en Hongrois, pour leur dire « Maintenant, vous êtes un peuple libre, etc. » Donc, avec la Russie, il n'y a pas non plus de possibilité, parce qu'il y a l'affaire de Pologne. Les Russes ne peuvent pas admettre une Pologne, comme le royaume de Pologne n'avait été, indépendante entre eux et l'Occident. Et donc, Napoléon, lui, veut ressusciter cette Pologne, l'influence de Marie Walewska, certes, mais aussi, c'est une constante de la politique française de défendre le royaume de Pologne. Donc, chaque fois, il y a des obstacles. Alors, les propositions de paix, l'Angleterre les a toujours refusées, mais vous avez raison, dans la mesure où cette paix, comment ne peut-on pas la trouver ? Et certains s'y ont essayé, Talleyrand s'y est essayé dès 1805, après la victoire de Napoléon à Austerlitz. Mais Fouché, en 1809, essaie, par l'intermédiaire de banquiers, d'ouvrir des négociations avec l'Angleterre. Mais à chaque fois, ça capote. C'est une lutte, si vous voulez, implacable entre la France, et dépasse Napoléon, et l'Angleterre. L'Angleterre ne peut pas admettre qu'il y ait une puissance dominante sur le continent européen. Et les guerres entre la France et l'Angleterre commencent avec Louis XIV. C'est l'héritage de Louis XIV, Napoléon hérite. Et par ailleurs, vous voyez que, notamment, les Anglais n'admettent absolument pas la présence française à Anvers. Anvers, c'est leur débouché sur le continent, et c'est là le principal obstacle de toutes les négociations entre la France et l'Angleterre, but sur la position d'Anvers. Donc, effectivement, la paix n'était pas possible sans la défaite de la France. Et effectivement, après Waterloo, c'est la défaite de la France. Et elle ne s'en remettra pas. Certes, elle va être vaincue en 1870, certes, elle va gagner en 14-18, mais elle est saignée. Elle n'est plus la puissance dominante. C'est avec Napoléon que s'achève, commencée sous Louis XIV, cette domination de la France sur l'Europe. L'Europe ne sera pas française, elle a failli l'être, mais elle ne le sera pas.